sommes ici au kilomètre 270 à partir de Source-Seine, au 202 boulevard Saint-Germain à Paris, dans le 7e arrondissement. Et je dois vous dire que s'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais tout numéroté à partir d'ici. Le kilomètre zéro, c'est le 202 boulevard Saint-Germain, là où est mort l'homme de ma vie, Guillaume Apollinaire. Il a été blessé en 1916 au Bois des Buttes. Il commandait une compagnie d'infanterie. On imagine souvent que Apollinaire a été une sorte de soldat de base de la Première Guerre mondiale, une sorte de victime. Eh bien, pas du tout. Le sous-lieutenant Wilhelm Apollinaris de Krotzrowiski commandait une compagnie d'infanterie. C'est un des commandements les plus lourds et les plus exposés de la guerre. Il commandait 130 hommes. Ces hommes l'adoraient. Ils n'arrivaient pas à prononcer son nom. Ils l'appelaient Cointreau-Whisky. Il était toujours en première ligne, toujours courageux. Il lisait. Il écrivait, il avait été décoré de la Croix de guerre, et en 1916, alors qu'il lit un numéro du Mercure de France, un éclat d'obus dans le cadre d'un bombardement tombe, lui perfore le casque, continue à lire, et ça n'est que quelques temps après qu'il s'apercevra qu'il est grièvement blessé. On lui enlève l'éclat d'obus, cette opération provoque une sorte de compression du cerveau par le sang, on est obligé de le trépaner, on introduisait un forêt de menuisier pour découper le crâne et retirer le sang supplémentaire, une opération extrêmement lourde et douloureuse qui le transformera, après laquelle d'ailleurs il rompra avec sa fiancée Madeleine Pagès. Il rentre à Paris. Il est inexact de dire qu'il n'est que l'ombre de lui-même. Il continue à avoir cet appétit incroyable de la vie, du mouvement moderne, du cubisme, de l'orphisme qu'il avait toujours manifesté. Et puis il devient français. C'est une chose qu'il avait toujours voulu être. Apollinaire a toujours souffert de sa condition de métèque. Il était le fils naturel d'une jeune aristocrate polonaise qui a fini plus ou moins sa vie ensuite comme courtisane, qui s'appelait Angelica Olga, et d'un officier italien qui ne l'a pas reconnu et qui est parti. On a souvent dit d'ailleurs qu'il était fils d'évêque parce qu'il avait des manières un peu onctueuses et qui ressemblait à un évêque. Et cette condition l'a poursuivi toute sa vie. Il a voulu devenir français. Il a espéré devenir français. Il en a attendu énormément de choses. Quand il a été emprisonné à la Santé en 1911, parce qu'on l'accusait d'avoir participé au vol de la Joconde par un escroc qui s'appelait Géry Pierret, et un ouvrier italien qui d'ailleurs l'avait volé pour le rendre à son pays d'origine. Quand il a été incarcéré à la Santé en 1911, beaucoup d'articles ont paru dans les journaux où il y avait, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, les juges d'instruction qui laissaient filtrer un certain nombre de choses plus ou moins agréables pour lui, et notamment le fait qu'il n'était le fils de personne et qu'il était à peine français. À l'époque d'ailleurs, la préfecture de police a envisagé tout simplement de l'expulser de France, alors qu'aucune charge n'avait été relevée contre lui. C'est une blessure qu'il a conservée toute sa vie. Il a voulu devenir français, il a même voulu être élu à l'Académie française. Et en 1917, après une convalescence difficile, après la pneumonie, après la bronchite, il est enfin nommé lieutenant, il a son képi à deux galons, il a la Légion d'honneur, il a la Croix de guerre, et il reçoit enfin son brevet de naturalisation, et il se marie avec celle qu'on a appelée la Jolie Rousse, à laquelle il a dédié des poèmes, et qui s'appelait Jacqueline Kolb. Il se marie, mais il désoriente encore tout le monde. Et ce qui est quelque chose de merveilleux chez Apollinaire, c'est que cet homme qui avait tant voulu devenir français et qui reste aujourd'hui pour nous le symbole même de la poésie française, cet homme, en fait, a désorienté les esprits de son temps. Il défendait les mouvements modernes, il défendait toutes les avant-gardes, il était l'ami de Picasso et de Derain, il avait soutenu Braque, il était un admirateur de Matisse. Et en même temps, il était le soldat amoureux de la douce France, il était celui qui saluait le drapeau, il était celui qui aimait Georges Clémenceau. Et en même temps, il était celui qui faisait représenter les mamelles de Tirésias, qui est le grand drame féministo-comique de l'époque où une femme oblige son mari à procréer parce qu'il est injuste que ce soit les femmes qui subissent cette charge et non pas les hommes. Au fond, Apollinaire, qui avait tant voulu être français, n'était pas totalement français en ceci qu'il avait une conception non pas binaire comme nous avons le bien, le mal, le passé et l'avenir, la gauche et la droite, mais une conception absolument polyédrique du monde. Il cherchait par là une sorte d'harmonie universelle. Il cherchait une sorte de sentiment océanique, et il a cherché toute sa vie cette issue, avec un côté mystique dont témoigne Zone, dont témoigne ce vers sur la croix, double potence de l'honneur et de l'éternité, et de l'autre côté, ce goût pour la pornographie, les formidables 11 000 verges, ce goût de l'amour charnel qu'il a manifesté toute sa vie jusqu'à la fin. Il se marie donc en mai 1918, et juste après, il est affaibli par cette épidémie incroyable de grippe espagnole qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts, surtout en Asie d'ailleurs, et 200 ou 300 000 morts en France, et des morts sans nombre en Angleterre, et qui a fait plus de morts que le premier conflit mondial. Il écrit un article dans le Mercure de France qui annonce que c'est la fin de l'épidémie. Il commence à être affaibli, il sent qu'il a de la fièvre, cette épidémie ressemblait beaucoup à l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui. Il déjeune avec Blaise Sandrard, le légionnaire, amputé du bras gauche après l'assaut de la ferme Navarin, et après ce déjeuner, il rentre se coucher et il mourra. Dans la soirée du 9 novembre 1918, entouré par Cocteau et par Max Jacob. Au moment où il meurt, et c'est un moment absolument tragique, Ungaretti d'abord, qui était son ami, puis Picasso viennent le voir. Il monte dans cette espèce de petit appartement du dernier étage, là, qui est juste devant nous, et sur la porte duquel André Breton avait vu « On est prié de ne pas emmerder le monde », qui est le carton qu'Apollinaire écrivait quand il voulait rester tranquille. Il est là, il est amaigri, il a l'air très jeune, dira Picasso. Il est couché sur son lit avec son uniforme bleu, sa croix de guerre et sa légion d'honneur qui lui ont été épinglées par une de ses amies, qui était une femme exceptionnelle, qui s'appelait Louise Faure-Favier, qui a été la première journaliste professionnelle en France et qui a été une pionnière de l'aviation. Et au moment où Picasso, Ungaretti d'abord et Picasso ensuite, se recueille devant son corps, monte dans la rue, parce que c'est l'annonce de l'armistice, les cris d'une foule qui défile sur le boulevard en hurlant « À mort Guillaume, à mort Guillaume, à mort !» En fait, c'est du Kaiser Guillaume, naturellement, qu'il parle, et Picasso se met à pleurer en entendant ces cris, pour lui, absolument insupportables. Vers le milieu de l'épidémie du Covid-19, alors que tout le monde était confiné, j'étais en train de travailler sur Apollinaire, et puis je suis tombé sur une une du Parisien. Et cette une m'a beaucoup ému, parce que il y avait simplement écrit qu'Apollinaire était mort de la grippe espagnole, une grippe qui se comparait beaucoup à celle de l'épidémie actuelle, à celle du Covid, qu'il était mort de la grippe espagnole. Et la phrase de chapeau était « Le 9 novembre 1918 est mort l'un des plus grands poètes français ». Et j'ai pensé qu'Apollinaire avait vécu toute sa vie pour cette phrase, « L'un des plus grands poètes français ». Je crois qu'Apollinaire avait rêvé toute sa vie de voir cette simple phrase imprimée dans un journal au moment où il écrivait les vers de Vitam impendere amori qui sont parmi les derniers qu'il ait écrit. La vitre du cadre est brisée, un air qu'on ne peut définir, hésite entre son et pensée, entre avenir et souvenir.